Il y a 700 ans, il a partagé sa grande traversée à travers l'enfer, le purgatoire, jusqu'au paradis.
Notre poète fut de taille moyenne, il avait le visage long et le nez aquilin, les mâchoires fortes et la lèvre inférieure si saillante qu'elle dépassait un peu la lèvre supérieure, les épaules un peu voûtées, les yeux grands plutôt que petits, le teint brun, les cheveux et la barbe noire et frisée. Il était toujours mélancolique et pensif.
Nom ?
Dante Alighieri.
Son nom sous la forme la plus courante ?
Bah Dante.
Sa date de naissance ?
Printemps 1265, d'une famille sans prestige particulier, mais à Florence, en la grande ville, sur le fleuve Arno.
Un premier amour ?
Ah bah l'unique. Si sublimé qu'il n'a plus même besoin de s'être incarné. Dante a, semble-t-il, croisé brièvement Béatrice alors qu'il avait 9 ans, et ensuite une dizaine d'années plus tard. Amour asymétrique, d'autant que Béatrice est morte très jeune, vers 1290. Amour s'en va vers le ciel, emportant la dame du salut qu'il rêvera de retrouver au paradis.
Quelle est la vie politique à Florence à cette période ?
La ville est violemment divisée entre deux factions, Gibelins et Guelfes. La seconde se divisant elle-même en Guelfes noirs et Guelfes blancs. Dante appartenait à la seconde tendance après avoir exercé quelques mois la fonction très surveillée de co-prieur. Il sera exilé. Il ne reverra pas l'Arno. Pourtant, disait-il, j'ai bu son eau avant d'avoir des dents.
Et plus largement, la vie politique en Italie ?
Après le jubilé de l'année sainte, 1300, Dante avait participé à une ambassade auprès du pape Boniface VIII qu'il va maudire. L'élection d'Henri VII de Luxembourg au trône du Saint-Empire romain germanique lui fournit l'espérance de retrouver un rôle dans une Italie du nord et du centre plus harmonieuse. Mais le jeune souverain en qui il avait placé ses espoirs meurt prématurément. Et non seulement Dante ne peut plus retourner à Florence, mais il doit quitter la Toscane pour être recueilli par des hôtes successifs plus au nord.
Ses œuvres principales ?
Après la Vita Nuova, le chef-d'œuvre de la maturité qui occupe son exil, c'est la Divine Comédie avec ses trois règnes, l'enfer, le purgatoire, le paradis, chacun en 33 chants.
Sa mort ?
À Ravenne, Florence ne va pas récupérer son corps, mais vient d'ouvrir un musée de la langue italienne à Santa Maria Novella. C'est à des moments importants du 700e anniversaire de sa disparition. Tous les Italiens savent qu'il a forgé leur langue avec son grand poème destiné à tous.
France Inter. Intelligence Service. Jean Lebrun.
Sachez, Monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Et pour commencer, pouvez-vous nous donner des éléments qui expliquent l'ouverture de ce dossier ? Je vous écoute.
Vous savez, il y a une statue de Dante, rue des Écoles, à Paris. C'est peut-être la seule dans la capitale qui puisse se passer d'un nom sur son socle. Elle représente le poète novateur à jamais. Oui, parce que les siècles, les uns après les autres, ont retrouvé Dante. Cette année, la bibliothèque de la Pléiade, pour l'anniversaire de sa mort, donne une nouvelle édition de la Divine Comédie. D'ailleurs, au XXe siècle, nul pays ne l'a autant et mieux traduit que la France. Et déjà dans les années 1850, le philosophe catholique puis socialiste Lamennais, désespéré au plus noir du Second Empire autoritaire, avait entrepris sa propre Divine Comédie. Et ces années-là, Victor Hugo, en exil dans les îles anglo-normandes, conviait Dante autour de la table tournante de son salon.
Toi qui es là, dis-moi ton nom. Le pied se leva, frappa un coup, puis un second et s'arrêta. Qui es-tu ?
L'ombre.
Peux-tu nous dire ton nom ?
Non.
As-tu une communication à me faire ?
Oui.
Laquelle ?
Crois.
À quoi ?
À l'inconnu.
Parle de toi-même.
La mort est le ballon de l'âme.
Qui es-tu donc ?
L'ombre.
L'ange de la mort ?
Oui.
Pourquoi viens-tu ici ? Peux-tu le dire ?
Pour causer avec la vie.
Revenons à la biographie de Dante, s'il vous plaît, monsieur Lebrun. Et à la ville de Florence qu'il a vue naître.
Oui, vous avez raison, parce que Dante lui-même disait « il faut un guide ». Et il multipliait les incises dans la Divine Comédie. Rappelle-toi, lecteur. Alors il faudrait par exemple le situer longuement parmi ses contemporains. Les franciscains, alors très dynamiques, qui chantaient les mérites de Dame Pauvreté que Dante aimait tant. Giotto, qu'il vit peindre. Marco Polo, qui voyageait en Orient alors que lui entrait en politique à Florence. Oui, à Florence, il n'avait pas choisi la meilleure part, puisque dans cette ville, les factions s'affrontaient avec une particulière violence, réclamant de deux pôles antagonistes, la chair de pierre à Rome et le trône du Saint-Empire romain germanique, vacant depuis 1250. L'écrivain Jacques Madaule.
Lorsque Dante est venu au monde, Florence et l'Italie étaient tout entière, sauf peut-être le royaume de Naples dans l'extrême sud, était tout entière dans un état de guerre civile ouverte ou larvée. Elle était divisée par cette querelle des guelfes et des gibelins. Et précisément parce que derrière ces rivalités, il y avait en réalité des tensions sociales. C'est ainsi qu'une des tensions sociales fondamentales du XIIIe siècle en Italie, c'est l'opposition entre la noblesse féodale et le patriciat urbain. D'une manière générale, la noblesse féodale avait adopté le parti de l'empereur, c'est-à-dire qu'elle était gibeline, et le patriciat urbain avait adopté le parti du pape, c'est-à-dire qu'il était guelfe. Les guelfes étaient en effet partisans de la primauté du pouvoir spirituel, c'est-à-dire du pape, tandis que les gibelins étaient partisans de la primauté du pouvoir temporel, c'est-à-dire de l'empire.
Il faudrait ajouter que du côté du peuple, les popolani, il y avait une prédisposition à attaquer à chaque instant les puissants ou les supposés puissants. Il suffisait qu'un coude frappe une poitrine et c'était l'émeute. Alors quand Dante exerce des fonctions très surveillées de co-prieur des arts. Il se voit aussitôt refuser le quitus par la population. Il est condamné à l'exil, un exil qui va bientôt devenir définitif. En 1300, cependant, il a eu le temps d'assister à l'année sainte, ouverte par le pape Boniface 8. Notre premier interlocuteur, ce sera Carlo Ossola. Je vous parlais de la statue de Dante, rue des Écoles. Son bureau de professeur, maintenant émérite, au Collège de France, donne pile sur la statue de Dante.
Dante a constitué une bonne partie de son œuvre sur l'idée du pèlerinage. Dante explique qu'il y a trois types de pèlerins. Les pèlerins qui vont vers Jérusalem, les palmiers, les pèlerins qui vont vers Saint-Jacques-de-Compostelle et les pèlerins qui vont vers Rome et qu'on appelle les Romei. Donc il y a cette idée de pèlerinage qui finalement se réalise dans le jubilé et nous avons à peu près la certitude que Dante s'est rendu à Rome parce qu'il décrit à un moment dans son poème la double file des pèlerins qui vont à Saint-Pierre en passant par le pont qui existe toujours de Sant'Angelo. Il y a, pour ainsi dire, une colonne qui sort, une colonne qui entre, et Dante le décrit avec précision comme s'il était vraiment allé à Rome. Donc, c'est vrai, c'est un jubilé, c'est un ouvrage jubilaire, pour ainsi dire.
Oui, mais l'irritation de Dante contre Rome va aller grandissant et son œuvre ne va cesser de témoigner contre le pape de 1300, Boniface VIII. À un moment, donc, il a espéré en une figure alternative, le jeune empereur qui tente, pense-t-il, de rétablir l'harmonie en Italie, n'y parvient pas, disparaît victime de la malaria, ayant déçu presque tous ses partisans. Et Dante, qui pensait que son exil serait bref, comprend maintenant qu'il va falloir lui demander une hospitalité de longue durée aux uns et aux autres, qu'il sera long à descendre et à monter l'escalier d'autrui.
On pourrait dire, d'après les dernières hypothèses des historiens, que la comédie est un poème entièrement écrit en exil. Mais maintenant, on dit, vraisemblablement, Dante commence la Divine Comédie quand il est déjà passé en Italie du Nord, c'est-à-dire à Vérone et puis de Vérone à Ravenne. Non seulement il n'était plus à Florence, mais il n'était même plus en Toscane, ce qui a créé, j'ajoute ce petit détail, des difficultés supplémentaires pour la tradition manuscrite de la comédie, parce que les premiers manuscrits ont tous une espèce de patte linguistique septentrionale. Et c'est Boccace qui s'aperçoit que la diffusion de Dante est un peu, comment dirais-je, un peu bâtarde. Et il fait tout un travail lui-même de copie pour restituer Dante à son Toscan. C'est en même temps douloureux et magnifique. C'est un exilé qui est restitué à sa patrie par la bouche des autres et par la plume des autres.
Intelligence, service. France Inter.
Monsieur Lebrun, la Divine Comédie n'est-elle pas une œuvre gigantesque qui obéit à une architecture très précise?
Oui, mais en même temps, un mot peut résumer l'œuvre tout entière, c'est le mot amour. C'est le centre auquel se rapportent tous les points de la circonférence. Alors, vous me direz, mais c'est à peine si Béatrice et Dante se sont aperçus. Ils ont seulement échangé quelques mots. Mais voilà, l'écriture commence quand Béatrice a cessé d'être. Il s'agit de la rejoindre là où elle ne peut qu'être, au paradis. La Divine Comédie, c'est un pèlerinage vers elle. Alors, Dante parle à la première personne. Mais notez qu'autant sa démarche peut paraître hésitante, autant la structure du livre, vous évoquez son architecture, est construite solidement. Le narrateur va passer par trois règnes de 34 ou 33 chants chacun, l'enfer, le purgatoire, le paradis. Le premier des 34 chants du premier règne, l'enfer, nous sommes le vendredi saint. Le Christ est mort, la lumière s'est tue.
Pendant que je retombais tristement en ce lieu inférieur, à mes yeux, quelqu'un s'offrit, dont par un long silence la voix paraissait éteinte.
Aie pitié de moi, qui que tu sois, ou ombre, ou homme réel.
Homme. Non. Je le fus. Autrefois. Vécu à Rome sous le bon Auguste. Au temps des dieux faux et menteurs. Poète, je fus. Mais toi, pourquoi retournes-tu à tant de tristesse? Pourquoi ne gravis-tu pas l'heureuse montagne qui est le principe et la cause de toute joie?
Or, es-tu ce Virgile? Et cette source qui répand un si large fleuve d'éloquence? Ô gloire et lumière des autres poètes, qu'il me soit tenu compte de ma longue étude et du grand amour qui m'a fait rechercher ton livre. Tu es mon maître et mon auteur. Tu es celui-là seul de qui je tirai le beau style qui m'a fait honneur.
Oui, vous avez entendu, Virgile, dans la forêt de l'enfer, où la voie droite est perdue, il faut un guide, et ce ne sera pas n'importe qui. Dante s'accroche au bras de l'auteur de l'Énéide pour franchir les passages difficiles qui s'annoncent.
Le guide, au point de vue classique, est un métier dangereux. Et c'est à peu près quelque chose comme, je dirais, le héros qui précède quelqu'un qui espionne aussi. Il y a toutes ces difficultés. Alors que Dante met le guide à un niveau extrêmement haut. Il s'agit de quelqu'un plus solide dans la sagesse, Virgile, plus solide dans la foi, Béatrice, qui se charge des faiblesses de Dante.
À l'orée de la forêt de l'enfer veille la panthère, la luxure, le lion, l'orgueil, la louve, la convoitise. Dante est troublé de voir tant de ses amis se retrouver parmi les damnés et tant de personnalités qu'il estime, le troubadour Bertrand de Born, par exemple, et tant de puissants découronnés, à commencer par le pape, Boniface VIII. Son extraordinaire imagination visuelle suffit à peine à représenter les supplices qui sont administrés dans cette nuit obscure. L'enfer aujourd'hui, cette part maudite dans la Divine Comédie, c'est la plus connue, la plus facile à apprécier pour nous, la plus pittoresque par le vocabulaire. Ce n'est pas un hasard si c'est à l'enfer que s'applique l'adjectif si utilisé, dantesque. Dantesquissime est le chant consacré au comte Ugolin. Tu ne peux savoir, dit-il à Dante, combien ma mort fut cruelle. J'ai été enfermé avec mes fils dans une tour dont la porte fut fermée à jamais. Comment allions-nous nous nourrir? Est-ce qu'on devrait se manger les uns les autres?
Dès le petit matin, quand je fus éveillé en leur sommeil, j'ouïs pleurer mes fils qui étaient avec moi. Ils demandaient du pain. Pourquoi ne t'ouvris-tu, ah, terre impitoyable? Quand nous fûmes venus au quatrième jour, Gaddo tomba étendu à mes pieds. « Oh, mon père, dit-il, tu ne me secours pas. » Il mourut. Aussi vrai que tu me vois ici, je les vis tous les trois tomber l'un après l'autre. Du jour 5 au 6e. Aveugle alors déjà, à tâtons, je me mis à chercher chacun d'eux. Deux jours après leur mort, je les criai encore. Enfin, plus que le deuil, le jeûne fut puissant.
On comprend que Dante soit impatient de quitter l'enfer, d'aller plus haut. Mais comment aller vers Béatrice ?
L'écriture de Dante a fait beaucoup pour constituer la langue italienne, monsieur Lebrun. Et les diverses traductions de son œuvre y ont également beaucoup participé.
Oui, Dante a détaché l'italien qu'il a fait mûrir de l'arbre du latin. Il écrit pour tous. Il ne faut pas que le dire soit loin du fait. Mais de la grâce offerte à tous, quelques-uns plus savants peuvent faire leur propre miel. La Divine Comédie est ouverte aussi à tous les commentaires, à toutes les gloses et à toutes les traductions. Carlo Ossola.
Chaque traduction est aussi une interprétation. Il n'y a jamais une traduction totalement fidèle. Ce serait presque tautologique. En réalité, une traduction est déjà une interprétation. Qu'on le souhaite ou pas, il y a évidemment ceux qui préfèrent conserver des raisons métriques ou rythmiques. Il y a d'autres qui préfèrent conserver les contenus philosophiques ou théologiques de Dante.
Mais Pézard, grand traducteur de la version précédente de la Pléiade, qui dit qu'il faudrait peut-être se débarrasser de toutes les traductions, même les meilleures, fermer les livres et lire les yeux fermés.
Oui, oui, oui. J'ai été étonné par ce passage, parce que André Pézard est extrêmement attentif et toujours très précis par rapport à son objet. La précision, l'objectivité, le désir d'adéquation. Ce qu'on trouve dans sa traduction de Dante. Et puis, dans son avertissement, il y a ce passage, je dirais même très touchant, parce que après un travail immense de traduction, il dit, ce n'est pas ça, au fond... il faut aller de l'avant, il faut aller ailleurs, il faut justement fermer les yeux, fermer le livre, oublier la langue de Dante et oublier notre langue, il ajoute. Et parler avec la langue muette de la prière, me semble-t-il qu'il dit comme ça.
Dante, après tout, appartient à qui l'écoute. Et nous sommes à la radio. La radio, c'est la privation d'un sens. Alors fermez les yeux. Nous sommes encore dans l'enfer. Chant 14. Dante, avec Virgile, est parvenu à une lande qui, de son lit, éloigne toute plante. C'est du moins ainsi que traduit Lucienne Portier. Mais faut-il dire lande, d'ailleurs ? Alors voici la traduction d'Henri Longnon, 1934.
J'apercevais des troupeaux d'âmes nues, toutes pleurant très misérablement, qui paraissaient soumis à des lois différentes. Certains gisaient en terre sur le dos, d'autres étaient assis tout ramassés, d'autres enfin marchaient sans jamais s'arrêter. Ceux qui faisaient la ronde étaient les plus nombreux. Moins nombreux étaient ceux qui gisaient au tourment, mais leur langue était plus prompte à se plaindre. D'une lente cadence, et sur l'arène entière, pleuvait du feu en flocons dilatés comme la neige en Alpes s'il ne vente.
Et voici la traduction, citée il y a un instant, d'André Pézard, 1965, celle qui a fait l'objet d'une première pléiade, laquelle contient aussi les autres œuvres de Dante. Cette traduction a été utilisée pour l'adaptation réalisée par Claude Santelli et Michel Tréguer en 1973.
À la forêt, la plaine de sable succède.
Ne t'y aventure pas. Demeure à la lisière.
C'est là un nouvel appareil de justice.
Vois. Le sable est épais et doux.
Tel le sable du désert.
Et comme dans le désert, des ombres hier.
En troupeau.
auquel il est interdit de s'arrêter.
Certains, cependant, gisent sur le dos.
Leur sort n'est pas meilleur.
Car sur tous, il neige.
Et cette neige est faite de flocons de feu.
Même au point de vue géographique, j'ai remarqué que l'ensemble des lieux âpres, désertiques, isolés, est, même au point de vue quantitatif, plus important dans la Divine Comédie que les lieux, comment dirais-je, joyeux, fertiles, les jardins, les lieux de jouissance. Il y a bien sûr le paradis terrestre, mais il faut rappeler que c'est un paradis terrestre totalement vide et où se célèbre, pour ainsi dire, la procession apocalyptique. Il y a des petits moments magnifiques, par exemple les cascades près de Trente, il y a des paysages, des eaux qui descendent du Casentino ou alors des montagnes qui entourent Assisi. Voilà, c'est des petits moments, mais je dirais la géographie de Dante est tellurique, pour ainsi dire, même la montagne du Purgatoire est une montagne âpre, où il n'y a pas il n'y a pas d'îlot, il y a juste la petite base avant de monter la montagne qui a un peu de verdure. Tout le reste, c'est vraiment des rochers quelquefois verticaux et sur lesquels, par exemple, au champ neuf du purgatoire, Dante ne peut pas grimper, il est porté pendant la nuit, autrement il n'arriverait pas à la vraie porte du purgatoire.
La porte du purgatoire, eh bien oui, nous sommes parvenus, la veille de Pâques, au pied de la montagne du deuxième règne. Dante reste prudemment au plus près de Virgile parce que la montée degré par degré va être périlleuse.
Purgatoire. Et je chanterai ce second royaume où l'âme humaine se purifie et devient digne de monter au ciel. Une douce couleur de saphir oriental qui se cristallisait dans la sereine apparence de l'air pur jusqu'à l'horizon visible.
Le purgatoire, à l'époque de Dante, est d'extraction récente. On peut dire que l'Église a fait preuve d'un flair surnaturel quand elle l'a inventé. Elle professait depuis longtemps que les actes des hommes, à commencer par le péché, relèvent de leur liberté. Le purgatoire va être une excellente manière de leur indiquer les conséquences de leur responsabilité. S'ils ont trop péché et que le paradis ne peut leur être ouvert de suite, ils devront faire l'expérience, parfois longue, d'une file d'attente, d'un règne intermédiaire, le purgatoire. Notre deuxième interlocutrice, Sabine Audrerie, maintenant. Elle a publié cet été, dans son journal La Croix, une série sur Dante en, on va dire, 34 chants.
J'imagine que Dante n'a pu être que très excité à l'idée d'être le premier à représenter le purgatoire. Il y a un défi littéraire, mais il y a aussi une conviction et une volonté, qui est une conviction politique en fait, d'aider l'homme à se représenter la vie après la mort et les conséquences de ses actes sur Terre. Et sa grande nouveauté, c'est de présenter le purgatoire comme une montagne qui suppose une ascension, une sorte d'escalade vers Dieu. Et c'est magnifique parce que c'est prise après prise, l'homme se hisse vers Dieu et c'est une montagne qui est conçue par degrés. À chaque degré, les anges vont effacer les péchés du front des pécheurs. Les péchés sont représentés par des marques sur le front et à chaque degré, un ange de son aile efface les péchés. Tout lecteur des Écritures fréquente les anges. Pour Dante, ils sont présents au purgatoire et puis de plus en plus présents. Et quand on arrive au paradis, il y en a de plus en plus. Et à l'approche de l'Empyrée, du Saint des Saints, la présence des gens est figurée comme un essaim d'abeilles. Ils sont vraiment partout. Ce sont les serviteurs célestes, en fait. C'est l'antichambre du divin. Alors celui qui a le mieux étudié la présence des anges dans l'œuvre de Dante, dans la Divine Comédie, c'est le théologien Romano Guardini, et il écrit au sujet des anges dans la Divine Comédie. L'ange est esprit, rien qu'esprit, non pas hostile au corps, mais incorporel. La vérité, le bien, l'ordre, la beauté déterminent son existence. Il est lumière et ardeur.
Et voici, hors du temps, le troisième règne, le paradis. Virgile a cessé de guider Dante, qui va se retrouver entre les bras de la Dame du Salut de Béatrice.
Dans le ciel, qui reçoit en plus grande abondance sa lumière, je fus, moi, et je vis des choses que redire ne sait ni ne peut celui qui de là-haut descend. Parce que s'approchant de son désir, l'intelligence touche à de telles profondeurs que la mémoire ne peut si loin la suivre. De la couleur de l'or où reluit un rayon, je vis une échelle, érigée vers le haut, tellement que mon regard ne la pouvait suivre. Ma douce dame derrière eux me poussa d'un simple geste. Si fort sa vertu sut vaincre ma nature. Ouvre les yeux, dit-elle, et regarde la vérité. Tu as vu de telles choses que le pouvoir t'est venu de soutenir l'éclat de mon sourire.
Dante part dans l'au-delà pour retrouver Béatrice, puisque Béatrice est morte assez jeune, et paradoxalement devient, une fois morte, une figure beaucoup plus incarnée et vivante qu'elle ne l'était de son vivant, puisqu'il n'y a pas eu de rencontre réelle entre eux et pas de véritable amour, si ce n'est l'amour que lui a projeté. Et donc, le paradis se confond avec Béatrice également, puisque toute l'ascension de la Divine Comédie a pour but de retrouver Béatrice. Béatrice, qui est finalement l'initiatrice dans le dispositif littéraire, Virgile accueille Dante au seuil de l'enfer. Il lui dit « Béatrice m'a envoyé pour te chercher et pour t'amener à elle ». Et Béatrice retrouve Dante au seuil du paradis pour lui montrer le paradis. Mais qui est une manière de lui montrer le paradis, pour lui montrer qu'il faut qu'il se convertisse dans sa propre vie pour y accéder. Et donc le paradis, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est surtout la lumière. C'est-à-dire que Dante, il a une manière de construire une véritable poétique de la lumière avec une manière une expressivité assez folle en utilisant des gradations différentes de la lumière, exprimer l'idée de Dieu et l'approche de Dieu.
Parce que l'enfer, c'était le lieu où la lumière se taisait, et le paradis, c'est le lieu, le règne, où Dieu est le soleil.
C'est ça, où la lumière chante, où tout n'est que musique et bonheur. Et sa langue elle-même, elle épouse tout ça. C'est-à-dire que la langue de Dante dans l'enfer, elle est beaucoup plus boyeuse, beaucoup plus rigolarde. Les situations sont beaucoup plus grotesques et comiques, alors qu'elle se fait plus délicate, plus élevée, plus lumineuse à mesure qu'on se rapproche de Dieu. Ça, c'est fascinant, ça aussi, d'avoir réussi ce miroir dans la langue, dans l'écriture même de l'expérience traversée par le personnage.
Sabine Audrery compare les descriptions du paradis au portail des cathédrales tels que les décrit Proust, par exemple, tendu vers le haut dans l'effluve des cloches, avec la Vierge qui paraît et va permettre de contempler le mystère, un mystère d'amour et de tendresse. Carlo Ossola.
Dante dit, mais finalement, pourquoi souhaitez-vous la résurrection de la chair? Les bienheureux répondent, parce que si nous reprenons notre chair de notre vivant, nous serons mieux reconnus par nos mamans, par nos papas, par nos proches. Du reste, cette tendresse est un peu le caractère de la partie finale du paradis. Dante se présente comme un enfanson, comme un bébé qui court au sein de sa mère, qui désire prendre le lait. Celui qui a une image la plus proche de ce type de rapport, où la tendresse devient plus importante que la possession de l'autre ou que l'adhésion à l'autre, et Roland Barthes, parce que dans sa leçon inaugurale, eut le courage de dire, et là j'ai vraiment une grande admiration pour lui, l'air paisible où l'enfant va et vient de sa maman avec un brin de laine, avec un peu de sable, créant autour de cet air une espèce de paix définitive, de plénitude définitive, faite de rien, d'une certaine manière. Et Dante, qui n'avait pas connu finalement sa mère, qui disparaît quand Dante est tout petit, a peut-être la même attitude que celle que Roland Barthes nous présente, et qui me semble vraiment encore aujourd'hui être un élément. On a un peu oublié cet amour de tendresse. Alors que c'était, par exemple, dans les grands mystiques de toute la tradition européenne.
Le retour aux sources que cet amour de tendresse, le besoin de quelque chose de naissant, le retour à l'Orient, à Jérusalem, après Rome, Carlo Ossola insiste beaucoup sur le fait que la Divine Comédie, c'est un besoin d'aurore et que sa fin est un commencement.
Lio, tu l'as dit. Lio, dilette et venera. Vicinello d'or, ne dimostrerà. Quanto i devoti
Intelligence, service. France Inter.
Quel est l'écho de Dante à travers les siècles, Monsieur Lebrun?
Eh bien, on entendait, il est présent sur le site de Carlo Ossola au Collège de France, un groupe de polyphonie à Ricucciata, un groupe de Corse. Il y a peu, mourait en Corse, À 98 ans, Léo Micheli, c'était le dernier grand témoin de la libération de Lille en 1943. Amoureux de Dante, il inscrivait des vers en lettres de feu sur les murs de Bastia à cette époque. Les Corses comprenaient que le purgatoire allait finir. Les soldats d'occupation italiens songeaient-ils à l'enfer qu'avaient fait vivre les troupes du Duce dans ces guerres successives en Éthiopie, en Espagne, dans les Balkans? Dans La Croix, le courrier des lecteurs a salué la série de Sabine Audrerie, mais il s'est trouvé un correspondant pour dire « Oh là là, déjà les nouvelles de l'actualité démoralisent, confinement, masques, guerre, feu, inondation, ça vous suffit pas, il faut vraiment rajouter du XIVe siècle ?» Mais Dante n'est pas seulement du XIVe siècle, c'est la force de la littérature de rendre toutes les époques contemporaines. Ainsi, Sabine Audrerie rapproche-t-elle l'enfer de la Divine Comédie de certaines œuvres de Céline?
Je pensais à Céline, qui a de commun avec Dante de partager son intérêt pour la langue vulgaire et pour la langue comme une glaise à travailler. La trilogie allemande de Céline, qui décrit l'Allemagne de 44. D'ailleurs, cette trilogie était surnommée, son titre de travail était « La bataille du Styx ». Et Céline qui décrit d'Henri Godon le séjour en train, le voyage en train des Allemands battus, des familles entassées. Il écrit, d'Henri Godon donc, « Plusieurs centaines de femmes, enfants et militaires s'agrippent au rebord et aux roues, à l'assaut, tous ont des papiers et des tampons et les agitent, et des biberons et des bébés. De ces assaillants, il y en a qui ont vu passer 4 durs, 1 mois à quai, se sont fait casser 10 fois les doigts. Personne n'a jamais tenté d'ouvrir un wagon, trop bourré de tout, blessés, voyageurs et cadavres, impossible de les détacher, trop agglutinés, emmêlés, etc. etc. » Il y a une intrication des corps dans cette évocation très longue de Céline qui rappelle cette intrication de des corps, des damnés, des gisants, souffrants dans l'enfer de Dante. Qui, à ma connaissance, n'est pas du tout volontaire chez Céline. Mais il y a une préfiguration chez Dante de beaucoup de situations, ou alors c'est l'humanité qui se copie elle-même et qui répète les choses. Mais on ressent profondément à la lecture de Dante une forme de prophétie littéraire.
Et savez-vous que tout au long du XXe siècle, les papes successifs ont publié des lettres pastorales à chaque anniversaire posthume du poète? Et que le 25 mars de cette année, François y est allé de sa publication. Il y a beaucoup d'ombre au 21e siècle. Il y a un grand manque de perspective. Lisez Dante, car il témoigne d'un désir de bonheur.
Il poursuit, et la lecture de Dante peut nous aider à avancer avec sérénité et courage dans le pèlerinage de vie et de foi que nous sommes tous appelés à accomplir.
Mais quand vous avez lu cet été, pour la préparation de cette série, longuement, Dante, qu'est-ce que vous avez remarqué qu'il dit de ceux qui ne sont pas chrétiens? Il en parle? Il les identifie quand même, les gentils, les juifs?
Il ne parle pas d'une nécessité de conversion religieuse. Il n'exhorte pas à croire, d'ailleurs... on serait bien embêté qu'il nous le conseille si nous ne le souhaitions pas. Il exhorte simplement à la conversion vers le bien. Et ça concerne absolument tout le monde. Sa foi, d'ailleurs, il reste très pudique sur sa vie de foi, sur sa vie de prière. Il est chrétien engagé. Il est immensément choqué par les dérives du clergé, par les méfaits, l'incurie des politiques, mais c'est le plus sévère avec les religieux, le clergé plutôt, pardon, et les papes. Donc, il n'est pas dans un appel à la conversion religieuse, il est dans un appel à la conversion pour l'aspiration au bonheur de l'homme. Lui-même n'est pas un saint, loin s'en faut. Il appelle, pour répondre peut-être un peu mieux, un peu moins maladroitement à votre question, il appelle à la contemplation autant qu'à la conversion. C'est-à-dire que là, effectivement, je pense que ça peut parler à tous, y compris aux non-croyants, mais d'une manière qui est éminemment personnelle.
On est libre de penser que Dante peut être interprété autrement que par la pensée chrétienne, que sa théologie, c'est un échafaudage d'une époque que la nôtre pourrait retirer et alors n'apparaîtrait en pleine lumière que les bijoux de sa poésie. On va terminer peut-être justement avec un poète. Ce n'est pas André Malraux, c'est un oracle, prix Nobel de littérature, qui parle d'un autre anniversaire de Dante.
Heureuse Florence et la terre de Toscane, heureuse cette part du monde latin, où sous le signe des Gémeaux, pour son double destin d'homme de songe et d'action, d'homme d'amour et de violence, d'homme d'enfer et de ciel, naquit un jour de mai Dante degli Alighieri, homme de poésie.
À l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Dante, et non pas comme aujourd'hui du 700e anniversaire de sa mort, c'était Saint John Perse. Les traductions de la Divine Comédie que nous avons utilisées, L'Oignon, 1934, Garnier, Flammarion, Un CD avec Jacques Roland, Au livre qui parle, Pézard, l'adaptation de Tréguer et Santelli, première édition de la Pléiade, Jacqueline Risset dans une édition pilotée par Carlo Ossola, La Pléiade maintenant, 2021, et Lucienne Portier aux éditions du CERF. Carlo Ossola va publier dans peu de jours, un Dante dans la collection Que sais-je. La prise de son, Patrick Muller, Thibaut Nassim Ben, et à la Maison de la Radio et de la Musique, Anne-Laure Cochet. Nous avons utilisé City and Memories Inferno. Ce sont des morceaux qui ont été composés pour accompagner un vieux film muet italien, L'Inferno. Les agents d'Intelligence Service, Frédéric Martin et Franck Olivard. La réalisation, Audrey Ripouille.